Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole. Sur Africa, chaque jour, du lundi au vendredi, vous pouvez commenter l'actualité, nous faire part de vos analyses et de votre regard sur l'information. C'est le principe du JDA. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, comme chaque vendredi, c'est la libre antenne. Vous choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez vous exprimer. Nous reviendrons sur la situation tendue aux Comores après la réélection contestée d'Azali Assoumani dès le premier tour. Nous parlerons de la situation au Mali, où un deuil national de 3 jours a été décrété. Mais nous attendons également vos commentaires sur les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations. On connaît désormais les 24 équipes qui vont concourir et le Gabon n'en fait pas partie. Pour nous faire part de vos analyses, composez le 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également nous envoyer vos commentaires sur facebook.com et désormais nous avons un numéro WhatsApp. Alors pour nous envoyer des messages sur WhatsApp, vous inscrire, commenter l'actualité, notez bien le numéro, c'est le 33 7 66 19 77 69. 33 7 66 19 77 69. Voilà, j'espère que vous l'avez bien noté. On attend vos messages nombreux. Avant cela, comme de tradition, on écoute les messages que vous nous avez laissés sur le répondeur d'Africa.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, allô, bonjour JDA. Bonjour tous les Africains. Et j'aurais bien fait des messages pour tous les Maliens et ressortissants maliens qui se trouvent en France, à l'Allemagne, à l'Espagne, en Amérique, partout là où se trouvent, sans distinguer, à tous les ethnies maliens qui se trouvent partout dans les pays européens, pour faire un don vers nos frères qui sont dans les souffrances, à commencer par le village de Peul qui est brûlé, et à certaines gens qui sont à l'hôpital de l'eau du Moti. Je me demande pour une fois à toutes les personnes généreuses de penser à eux, de donner l'argent à l'association pour envoyer urgentement à ces personnes pour soulager à nos frères qui sont dans les souffrances à l'hôpital. Merci JDA, merci au fond du cœur.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à pour vos messages aujourd'hui dans le journal des auditeurs. C'est la libre antenne, c'est vous qui faites le sommaire. On commence sans plus tarder cette libre antenne avec la situation tendue aux Comores. Depuis l'annonce de la victoire dès le premier tour du président sortant Azali Assoumani par la CENI, l'archipel est secoué par une crise politique. Hier, une fusillade entre des militaires et un groupe armé a causé la mort de 3 personnes. Ces tirs ont éclaté après l'arrestation du chef de l'opposition, Swali Mohamed, qui refuse de reconnaître la victoire du président sortant. Nous en parlons tout de suite avec Ali. Ali, bonjour.
Oui, bonjour, madame Stéphanie, ça va ?
Ça va très bien, et vous-même, Ali ? Bienvenue dans le
oui,
JDA.
Ça va. On peut dire ça va, mais ça va pas.
Ça va pas. Dites-nous.
Voilà. Comme on s'est changé un petit peu il y a un mois par rapport aux élections du Comore, pour les îles Comores.
Tout à fait.
Voilà,
ont eu lieu d'ailleurs ce dimanche.
Tout est prévu, comme je vous ai déjà dit, il y a un mois, que M. Azali, il a tout prévu tout ça. Nous, on connaît Azali depuis 2005.
Il était déjà président, hein. Il est arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État, d'ailleurs.
Tout est prévu. Tout ce qu'il fait Azali aujourd'hui, il a fait la même chose en 2005. Ça veut dire tout ce qui est vivant depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, il connaît bien Azali, il connaît tout ce qu'ils font. Voilà, on a crié tout ça fait déjà deux mois, mais les Comoriens, ils n'ont pas la force, ils n'ont pas les moyens pour le combattre. Bon, ce qui s'est passé depuis le 24 mars, depuis le matin, il y en a certains, ils ont porté dans les bureaux de vote pour aller voter. En arrivant, tous les caisses, c'était déjà...
Allô,
dans
Ali.
Toutes les îles.
Bon.
Oui.
Bougez pas trop, la ligne se dégrade. Vous disiez qu'au moment d'aller voter dimanche, certains ont vu les urnes déjà remplies, pleines.
Déjà remplies. Mmh. Et du coup, les 11 candidats, ils s'est présentés au CENI. Voilà, à la CENI.
Commission électorale nationale et indépendante.
Voilà, ils sont partis pour en parler, pour lui dire non, c'est les élections, on arrête et tout. Et du coup, voilà, la force de l'ordre, ils les ont arrêtés. Du coup, voilà. C'est pour vous dire que au Comor, il y avait 300 000 bureaux de vote. Les bureaux votants, c'est 400 bureaux de vote qu'ils ont eu. Ça veut dire, voilà, vous connaissez bien le chiffre. Voilà. Après, jusqu'à hier.
Donc, l'opposition dénonce un coup d'État. D'ailleurs, hier, il y a le chef de l'opposition qui a tenté de créer un Conseil national de transition. Il a été rapidement incarcéré.
Oui.
Est-ce qu'il faut s'attendre à un durcissement de la crise politique? Quels vont être les prochains jours, selon vous, Ali, aux Comores?
Franchement, Stéphanie, ce qui se passait hier, pour les deux morts, pour les deux militaires qui sont morts avec le civil, c'est rien à voir avec l'arrestation de M. Campagnard. C'est rien à voir.
D'accord.
C'est rien à voir. Donc, on est bien Azali. Azali, il a tout manipulé, il a tout organisé, tout ça.
C'est ce que Azali, vous avez dit.
Azali, son ennemi public, c'est dommage, il est décédé hier, c'est Faisal. C'est son ennemi public. Tout le monde sait que Azali, hier, pendant que Faisal il se fait libérer, il était où? Il était en Anjouan, en train de danser.
En train de faire un meeting à Anjouan, en effet, puis juste après le meeting, d'ailleurs, les autorités ont convoqué un conseil extraordinaire de défense. Merci, Ali, de nous avoir appelé pour nous parler de cette situation. Comment, situation à suivre. Bien sûr, bonne journée, Ali. On passe désormais à la situation au Mali. Le président malien a décrété hier 3 jours de deuil national en hommage aux 160 victimes de l'attaque du village Peul d'Ogossagou le 23 mars dernier. On en parle avec Tierno depuis Conakry. Tierno, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie Hartmann. Bonjour à l'ensemble des amis auditeurs et auditrices d'Africa numéro 1.
Bonjour Tierno.
Ok, merci. Oui, ce qui se passe au Mali, ça devient vraiment très inquiétant, à mon avis, parce que les danas, les donjons obligent à présent au gouvernement malien de faire face, ça veut dire d'utiliser la force. Parce que après le conseil ministériel extraordinaire avait ordonné la résolution totale que cette organisation soit vraiment désarmée haute. Mais leur chef traditionnel a dit niet, pas question que ce soit désarmé. Donc à présent, à mon avis, je pense qu'il faut que l'armée considère cette organisation comme ils ont considéré l'organisation d'Amadou Koufa ou bien celle d'Emelela ou d'Akimi. Il faut utiliser la force parce que c'est des terroristes donjons. Il faut qu'on ose de le dire. C'est lorsque le Mali a été attaqué, armement, il y a eu plus de 150 à 160 morts par jour. Il a fallu que cette organisation prenne les armes et faire face aux
pour l'instant, Tierno, pour l'instant, rien ne prouve que c'est cette milice d'ailleurs qui a commis ce crime. Elle s'en défend, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas être dissoute. Et selon le gouverneur, je vous lis un message du gouverneur de la région de Mopti. Le gouverneur de la région de Mopti informe l'opinion publique que suite aux événements, certaines communautés ont abandonné leur village. Face à cette situation, le gouverneur rassure les populations que toutes les mesures sécuritaires sont prises pour circonscrire tout cas d'attaque. Et le gouverneur informe par la même occasion qu'aucune communauté Peul ou Dogon n'a commis quoi que ce soit pour aller attaquer une communauté voisine. Le gouverneur précise, les auteurs de ces actes ignobles et barbares ne sont que des terroristes. Donc on évite, Tierno, du côté du gouvernement, de stigmatiser l'une ou l'autre communauté.
Moi, je pense que Mme Stéphanie Hartmann, c'est à l'état, parce qu'il y a plus de 5 jours, depuis le samedi, personne n'a revendiqué. L'État encore n'a pas pu prendre quelqu'un pour dire que c'est eux qui sont responsables de ça. Donc, pour le passé, tout le monde savait que c'est entre les Dogons et les Peul. Il y avait 5, 10 morts par le passé. À présent, cette fois-ci, le nombre est tellement trop. Ça a indigné tout le monde. Moi, je pense que l'organisation a eu peur de revendiquer. C'est ça, à mon avis. Donc,
merci, Tierno.
D'éprouver ce qui s'est passé, d'accord.
D'ailleurs, il y a des gens qui ont été arrêtés. Hein, parmi les blessés, 5 personnes ont été identifiées par les rescapés comme étant des assaillants. Présumés, selon hein, les procureurs engagés dans l'enquête, nous les soupçonnons d'être des membres hein, du groupe qui a attaqué le village de Gousagou le 23 mars dernier. C'est le procureur de Mopti hein, qui a dit ça. Et les 5 individus ont été acheminés à Bamako pour continuer à bénéficier de soins, mais aussi pour être auditionnés dans le cadre de l'enquête. Merci Thierno à Conakry. On continue de parler du Mali avec... Claudel, Claudel, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphanie.
Bonjour Claudel. Est-ce que selon vous, la réponse du gouvernement malien est à la hauteur du drame?
Ben, écoutez, pas du tout. Je voudrais d'abord m'incliner devant toutes ces dépouilles et puis dire mon soutien total à toutes les familles éplorées. C'est quand même... quand même extraordinaire, 160 morts dans des attaques barbares. Bon, moi je pense que le gouvernement n'est pas à la hauteur. En fait, les réponses qu'il donne plutôt, ce n'est pas ça. Vous voyez, il faut véritablement. Bon, d'une part, ils ont raison quand ils parlent de terroristes. Moi, je pense que c'est toujours le même problème de ce qui s'est passé en Libye qui se répercute sur nos pays. C'est une réalité. Et que tant que les gens ne comprendront pas ça, ça va être laissé pour compte. Et ce sont ce genre d'actes barbares qui vont se perpéter. C'est ignoble. Le problème de la Libye, c'était un véritable problème. Il faudrait que les Africains prennent
ce que vous dites, Claudel, finalement, c'est comme la Libye n'est pas un pays stable, ça répercute sur tout l'ensemble de la région. On sait que le Mali a une frontière avec la Libye, bien sûr.
Absolument. Voyez-vous, ces armes qui circulent, c'est une réalité, Madame Stéphanie. C'est des véritables bombes qui circulent. Dans la sous-région, nous avons l'opération Barkhane qui est du côté du nord, mais qui, à mon avis, qui fait des affaires, c'est tout. Voilà. Et comment comprendre que depuis 2 années qu'ils sont là, il y a toujours l'insécurité. Il faut que les gouvernements de ces pays-là réagissent par rapport au problème de la Libye. La Libye, tant qu'elle sera instable avec tous ces groupes armés, mais le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là vont être attaqués.
C'est très clair.
J'ai comme l'impression que les gens jouent avec. Mais 660 morts, Madame Stéphanie.
On va demander, merci Claudel, on va demander à Monsieur Diarra, qui est déjà intervenu, mais on va l'écouter rapidement, hein, ce qu'il en pense. Diarra, bonjour.
Bonjour Madame Hartmani.
Bonjour Monsieur Diarra. Vous avez entendu hein, Claudel qui dit finalement c'est l'instabilité en Libye aussi hein, qui facilite la circulation des groupes armés et surtout des armes.
Oui, c'est vrai, il y a ça, mais le cœur du problème c'est Kidal, Madame. Le cœur du problème, c'est Kidal. C'est qui a amené ces problèmes-là aussi? C'est la France. L'État français, c'est pas les Français. L'État français, le gouvernement français, madame. Et l'arme lourde que ces assaillants possèdent, aucun donjon possède ça. Ils possèdent même des armes qui sont plus sophistiquées que l'arme malienne possède. Madame, ce que moi je vais dire aux Maliens et des Maliens, d'abord, la première chose, je ne suis pas d'accord qu'on désarme les donjons tant que les forces maliennes ne sont pas dans toutes les villages là-bas. Je ne suis pas d'accord du tout. Et l'appel du gouvernement, ça, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que c'est Amadou Koufa et ses amis qui avec les mercenaires. Madame, il y a eu des analyses. Il y a eu des analyses de cette attaque. Ce sont des mercenaires qui viennent de partout. Ce sont des mercenaires. C'est ni Dozon ni le
On n'a pas encore de preuves, effectivement. Hein. Oui, beaucoup de certains disaient sur les réseaux sociaux qu'il s'agissait de mercenaires. D'autres les contredisaient. Pour l'instant, on ne sait pas.
Madame Hartmann, parce qu'il y a beaucoup de trahisons au Mali. Il y a beaucoup de trahisons. Dieu merci, ça commence. Que des bonnes ententes entre les politiciens, ça commence des bonnes ententes entre les Maliens lambda. Parce qu'aujourd'hui, c'est que dans les réseaux sociaux, dans les conversations, dans la famille, entre les copains, on commençait maintenant à bien compris que l'ère maintenant, c'est de tenir à la main, de se mettre face aux gens qui fabriquent ces mercenaires qui fabriquent ces groupes bandits qui sont à Kidal. Parce que ça ne peut pas y aller comme ça, madame. Il y a Agali, les combattants de Yagagali sont divisés à deux. Il y a une partie qui sont dans le groupe de MNLA, il y a une partie qui sont de à Sebal, entre MNLA, entre Yagagali. Mais ça ne marchera pas. La France, il est au courant de ça.
C'est vrai que la France, on se souvient que la France est quand même venue au Mali en 2013 hein, pour l'opération Serval, hein, qu'elle a libéré, on va dire, plusieurs villes, hein, dont Tombouctou et Gao. Et on sait que la France s'est arrêtée à Kidal, où elle a refusé finalement de chasser et de combattre le MNLA. Merci Monsieur Diarra. Monsieur Diarra hein, qui estime que finalement c'est la situation aussi au nord du pays qui a encouragé cette violence et la prolifération des groupes armés. Merci Monsieur Diarra. On continue hein, de parler rapidement du Mali avant de passer à la Centrafrique avec Diaby et Abdallah. Diaby, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour ouais, Diaby.
Je vais saluer Diarra pour une fois depuis qu'en 2013 on n'a jamais été d'accord. Mais là, pour une fois qu'on était d'accord, avant de désarmer Dogo, de toute façon, je l'ai dit avant-hier, je ne voulais même pas intervenir, je voulais intervenir, de dire Tcherno de ne pas agiter que des Dogons qui avaient ça, qui a tué des pelles. On ne souhaite jamais qu'un Malien qui tue un Malien, on ne souhaite jamais. Ça, on savait d'où il vient. L'armée ne peut pas rentrer dans son propre pays. Ça, c'est vraiment... On savait d'où il vient, tous les Maliens savent. Mais aujourd'hui, c'est la première fois que je suis d'accord avec Diarra. Mais malheureusement, on ne va pas rentrer dans la politique. Ce qui nous arrive.
Pour vous, il ne faut pas dissoudre les milices. C'est-à-dire que les milices, comme vous dites, elles sont là pour. Pour défendre. C'est-à-dire que si elles sont désarmées, pour vous, les populations se retrouveraient sans défense. C'est ce que vous dites, Diaby.
L'armée ne rentre pas là-bas. Mais l'armée, quand l'armée ne rentre pas. Mais il faut quelqu'un qui défende les populations. Voilà les populations qui viennent de tuer 160. Plus de 160. On dit 160, on ne sait même pas combien. Tout le village a été ravagé. On n'a jamais vu ça depuis que je suis né. Ça fait 32 ans que je suis en France. Je n'ai jamais vu ça au monde. Ça, ce n'est pas possible. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Si on peut aider le Dogo, pas pour tuer des pelles, pas pour tuer de qui que ce soit, si on peut aider, moi je demande aux Maliens demain, manifestation, si on pouvait aider le Dogo, à aider encore plus, tous les villages sont en train de mobiliser vraiment de prendre des armes. Parce que c'est le seul moyen qu'on peut. Aujourd'hui, le Premier ministre il se retrouve en États-Unis, à l'ONU. L'ONU, ils ont appelé pour que, hier, j'ai regardé la télé, on donne l'argent, pourquoi faire? On tue 160 personnes, on ne parle même pas, on appelle le Premier ministre pour dire qu'on va bouger avec l'argent. Non. Ça suffit. Je dis aux Maliens, prends défense, vraiment, aide le Dogo. Vraiment, ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je sais qu'on n'est pas content de ce qui s'est passé, mais il faut qu'ils défendent les villageois. Merci, Stéphanie.
Merci, Diaby. Diaby, qui finalement soulignait le rôle hein, de protection, selon lui, hein, des milices d'autodéfense. On va écouter, conclure peut-être sur ce sujet avec Abdallah. Abdallah, bonjour, bienvenue dans le JDA. Vous dites qu'il faut qu'on arrête d'accuser les Occidentaux quand il y a un problème en Afrique.
Il y a un problème, et notamment la France, et on voit la plupart de tous les Maliens, que ce soit les Sénégalais et tout ça là, ils vivent tous en France. Mais dès qu'il y a un problème, on met sur la France. Comme si la France, au bout d'un moment, il faut prendre ses responsabilités. L'État malien, il y a un État là-bas, on est d'accord. Il y a un chef d'État, il y a des ministres et tout ça là, et bah, ils sont conscients de ce qu'ils font là-bas. Dès qu'il y a un petit problème, on dit c'est la France, le problème c'est la France. On était bien contents quand on a envoyé avec Hollande et tout ça, on était bien contents. Tout le monde était là avec le drapeau français de Kidal jusqu'à Bamako et tout ça là. Et maintenant ils s'entretiennent entre eux là-bas et tout ça là. Moi je suis malien, j'ai double nationalité et tout ça là, mais il faut arrêter au bout d'un moment. Dès qu'il y a un problème, c'est les Occidentaux. Comme si les Africains, normalement, on est conscient de ce qu'on fait. C'est pas dès qu'il y a un petit problème, on dit « ouais, c'est la France, et par-ci, par-ça, et tout ça ». Moi, c'était juste un coup de gueule.
Est-ce que vous entendez parfois, Abdallah, des critiques, finalement, hein, sur le déploiement aussi de l'armée française et de la MINUSMA hein, sur le territoire malien ?
On dit « c'est pour l'intérêt français, et tout ça, là, mais on promet, c'est quoi ? C'est pour protéger les hommes, là-bas, et tout. Et après, s'il y a leur intérêt, ils font rien sans attendre retour. Même moi, je travaille pour gagner. S'il n'y a pas mon intérêt, je n'irai pas. Je vais aller les aider. Mais bon, après, s'il n'y a pas d'intérêt, moi, ces critiques-là, ça ne me dérange pas. Mais dès qu'il y a un problème, on dit c'est la France.
Vous dites que ça déresponsabilise les États, finalement, Abdallah.
Oui, l'État, il y a l'État là-bas. Il y a l'État qui, voilà, avec les militaires, il y a des... Le premier problème là-bas, c'est eux-mêmes là-bas et tout. L'État ne fait rien, mais les Malais, eux-mêmes, ils font rien. Là, je prends un exemple tout court et tout. Moi, je prends un garde du corps pour me protéger. et il y a un autre, c'est exactement la même, qui respecte la loi, mais je le montre en billet, et les gars, ils ne regardent plus rien. Et après, on dit, c'est l'État, c'est pas l'État qui fait...
C'est la corruption aussi, hein, qui
fait... Tout est corrompu là-bas, tout est corrompu. Tant que le problème de la corruption n'est pas résolu, eh ben, le Mali n'avancera jamais.
Merci Abdallah de votre contribution à cette libre antenne. Abdallah, hein, qui soulignait le rôle de l'État dans ce conflit, hein, au Mali. Mali, hein, qui concrètement est un pays... en guerre. Merci à tous. On va désormais parler de la Centrafrique avec Denise en Centrafrique. Hein. Il y a eu un nouveau gouvernement, hein, suite au mécontentement des groupes armés qui trouvaient, hein, que le gouvernement n'était pas assez inclusif et ne respectait pas, hein, l'accord signé à Khartoum. Désormais, hein, plusieurs membres de groupes armés font leur entrée au gouvernement, parfois, hein, en tant que conseiller militaire. Denise, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour amis JDA, bonjour peuple africain.
Pour vous, Denise, hein, cette introduction, hein, des groupes armés dans le gouvernement est une bonne chose. Vous pensez que ça va se sentir sur le terrain, du coup?
À ton avis, Stéphanie, qu'est-ce que le chef de l'État peut faire?
Alors, Denise, j'ai un devoir sur cette antenne, c'est que je donne rarement mon avis, ma chère Denise. Par contre, le vôtre nous intéresse, on vous écoute.
D'accord. Je vais tout juste dire, bon, j'ai dit ça comme ça, mais j'ai dit, le chef de l'État n'a pas d'autre choix. Il n'a pas le choix. Il ne fait que se rabaisser. Il doit se rabaisser pour donner au groupe armé tout ce que eux, ils veulent. Maintenant, c'est la volonté du chef de l'État. Il l'a fait déjà. Le Nigérien Ali Daras a 4 personnes dans le groupe. Lui-même, il est conseiller de militaire. De quel militaire il a fait? Maintenant, il a le rang de ministre délégué. Bref, je ne rentre pas dans ce considération. Mais aujourd'hui, le chef de l'État n'a pas d'autre choix. Parce que le monde entier voit ce qui se passe en Centrafrique. L'ONU est là. Tout le monde entier, tous les militaires de ce monde entier se trouvent en Centrafrique. Aux yeux de tout le monde, on tue, on brûle, on assassine. Personne ne bouge son doigt. Donc le chef de l'État n'a pas de force. L'ONU a mis l'embargo sur les armes des forces armées centrafricaines. Qu'est-ce que le chef de l'État peut faire?
Oui, il y a quand même la Russie qui a fourni un certain nombre d'armes aussi et qui apporte un appui militaire.
Non, c'est de se moquer des Centrafricains. Les 100 quelques armes là, ça va faire quoi?
Donc pour vous, hein, Denise, si on entend bien, pour vous, Denise, hein, si on entend bien, finalement, hein, le président n'avait pas le choix que de se plier, hein, aux revendications des groupes armés désormais. Hein, la question est de savoir si sur le terrain les attaques vont cesser. Merci beaucoup, Denise, de votre participation. Bonne journée. On continue cette libre antenne. Alors, dans l'ordre d'appel, il y a Jules qui va nous parler du Cameroun dans un instant. Ensuite, on écoutera Martial qui reviendra sur l'Algérie. Si vous voulez participer, il reste quelques minutes. 33 1 55 07 58 0 0. Il y aura peut-être un sujet Côte d'Ivoire avant la fin de l'émission avec Mamadou. Jules, bonjour. Ah, Jules.
Ah, si? Oui, allô, madame.
Oui, bonjour,
oui,
Jules.
Oui, bonjour, madame.
Merci de votre patience. Hein. Vous vouliez parler du Cameroun, au Cameroun, hein, où l'opposant, hein, Maurice Kamto, est toujours détenu avec une centaine de ses militants dans l'attente de son procès. Vous vouliez annoncer une marche pacifique.
Oui, effectivement. Je dis bonjour à tous les auditeurs. Je dis bonjour à Africa Nova One. Donc, effectivement, nous avions une marche ici demain. Et c'est même une marche mondiale parce que ça va se passer dans plusieurs capitales. Une marche pacifique pour demander la libération des prisonniers politiques. Voilà, effectivement. Donc, j'implore les Camerounais ou les amis du Cameroun à venir massivement nous soutenir.
Vous allez marcher où, Jules, à Paris?
Oui, c'est à la place de la République à 12h.
Place de la République, 12h, c'est quel jour?
Demain, samedi. Place de la République, oui, à 12h.
D'accord.
Oh, oui.
Bon.
Non, c'est le message que je voulais passer.
Je pense que le message est passé, mon cher Jules. Marche pacifique pour les détenus politiques au Cameroun. C'est demain samedi à Paris, place de la République, à partir de 12h, soit midi. Merci beaucoup, Jules, de votre participation. Martial, bonjour.
Bonjour, Madame Stéphanie.
Bonjour, Martial. Vous voulez revenir sur la situation en Algérie, en Algérie, hein, depuis le 22 février, les Algériens manifestent contre un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, qui désormais a retiré sa candidature et perd de plus en plus de soutien. Nous en avons parlé hier dans le journal des auditeurs. Hein, désormais, hein, l'armée demande que l'article 102, qui constate l'incapacité du président à gouverner, soit activé aujourd'hui. Hein, vendredi, les Algériens sont encore nombreux à sortir dans les rues.
Bon, ben c'est effectivement cela. Je voulais tout simplement vous redire, comme lors de ma dernière intervention sur l'Algérie, pour dire que le président Bouteflika lui-même a ouvert une brèche en reconnaissant lui-même explicitement son incapacité. Donc, ce sursis qu'il est en train de demander aujourd'hui, on se demande si c'est pour donner un coup de grâce à l'Algérie ou alors s'il a encore des comptes à régler à certaines personnes. Et à côté de ça, il faut bien se dire qu'à un certain moment, ce que je redoute, c'est que ce peuple en qui on reconnaît aujourd'hui des capacités se retrouve un peu dans la même situation que l'Algérie quand elle commençait le printemps arabe. C'est-à-dire que animé, galvanisé par le l'idée qui était la leur au moment où ils entamaient le printemps arabe.
Voilà, 2011.
Voilà, ils se sont aujourd'hui retrouvés pire qu'avant. Donc,
c'est-à-dire qu'en 2011, il y a eu des tentatives de manifestation, elles ont été vite interdites et le mouvement n'a pas pris en fait.
Voilà, mais néanmoins, le peuple tunisien a quand même montré sa bravoure. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? On en est tout simplement que la situation, elle ne s'est pas améliorée. Donc,
vous parlez quoi de la Tunisie ?
Oui, mais elle ne s'est pas améliorée. Donc je dis, aujourd'hui, Bouteflika qui est en train de demander un sursis, je me demande si c'est pour donner un coup de grâce à l'Algérie, ou alors, et puis, vous citez aujourd'hui la loi, l'armée qui demande l'application d'une loi par rapport à l'état de santé. Mais écoutez, si on est des gens sensés et qu'on ne peut plus faire des choses de façon sensée, alors on fait comment ? C'est-à-dire que là, on est parti sur une effusion de sang futur qui va certainement avoir lieu, et pourtant que on pouvait tout mettre sur la table, les lois aidant et tout le reste.
C'est très clair, Martial, on a bien compris, vous dites finalement il aurait fallu activer bien avant cet article, mais vous savez, hein, Martial, le pire n'est jamais sûr et personne ne souhaite des fusions de sang, comme vous avez dit. Merci beaucoup, Martial, de votre participation. Il nous reste un peu de temps. On va parler de la Côte d'Ivoire et de la crise au Front populaire ivoirien. On a Kana Lamboni. Kana, bonjour. Et oui, ensuite, bonjour. Mamadou. Bonjour, Kana.
Bonjour, Stéphanie. Bonjour à toute l'Afrique. Oui,
le FPI très divisé, hein, en Côte d'Ivoire.
Oui, c'est triste. Ça nous peine beaucoup. Surtout que c'est un FPI de Laurent Gbagbo. Concernant l'affaire où on nous parle de rencontres avortées, personne n'y croit, parce que quand on voit le parcours de Gbagbo, en aucun moment il a eu un tel comportement. Ce n'est pas après avoir résisté à la rébellion, au coup d'état de Ouattara et même à la mafia CPI dont il est sorti récemment, hein, qui va maintenant aller se faire une sorte de rébellion au sein de son parti qu'il a créé. On n'y croit pas. Aussi bien le camp Afi que Sangaré, ils racontent n'importe quoi.
Le problème, c'est que le président Gbagbo ne s'exprime pas.
Oui, mais justement, c'est pour ça qu'il profite pour dire n'importe quoi. Tant que le président Laurent Gbagbo...
Vous ne pensez pas qu'il soit l'acteur des divisions ?
Absolument
pas. En tout cas, de l'exclusion de Pascal Affine-Guessant.
Ça ne lui ressemble même pas de Laurent Gbagbo.
C'est très clair.
Il n'a jamais eu un tel comportement.
Ah bon.
Il n'a jamais eu un tel... Le combat de Gbagbo, c'est un combat panafricain, c'est un combat de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un combat de parti politique. Donc c'est ahurissant et c'est complètement absurde les camps qui se forment au niveau du FPI. Nous voyons bien aujourd'hui Mamadou Coulibaly qui est là, qui défend son programme.
Comme leader. Alors, restez à l'écoute, Kana. Il y a aussi Mamadou qui voudrait parler de cette crise au FPI. Et puis, on va conclure là-dessus. Mamadou, bonjour.
Oui, bonjour madame Stéphanie.
Bonjour, bonjour Mamadou, vous avez entendu Kana qui dit ah, finalement on instrumentalise Laurent Gbagbo, ce n'est pas lui qui a exclu Pascal Affine-Guessant, hein, qui est l'ancien Premier ministre, qui l'a accusé de vouloir l'assassiner politiquement.
Oui, c'est vrai, c'est vraiment étonnant, mais je voulais dire à monsieur Kana aussi que Laurent Gbagbo c'est un syndicaliste, c'est pas un homme d'État. Il vient de nous prouver encore qu'il est influençable. Parce que, avec tout ce qu'il a fait avec Afi, si aujourd'hui il se laisse influencer par les ondis et s'attaquer à Afi, moi aujourd'hui je ose, et je peux le dire ouvertement, tant que tu n'es pas de l'Ouest, tu peux pas gouverner le FPI. C'est vraiment dommage, mais bon, toujours le parti sectaire, ça continue toujours, quoi, ça va jamais finir. Parce que Afi, quelque chose qu'on va dire d'Afi, Afi il a beaucoup souffert quand même avec le FPI. Il a beaucoup souffert. Aujourd'hui il a mis un coup de pied, peut-être, à sa dame, bon, on peut dire peut-être elle l'a mal conseillé, mais le pauvre Afi, c'est vrai, il peut avoir des choses, comme on appelle, des déchirements d'un parti politique, mais aller jusqu'à un désaccord comme ça, vraiment,
c'est triste. C'est vraiment honteux. On aura sûrement l'occasion d'en reparler, mon cher Mamadou, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Et voilà, on vous remercie pour votre participation. D'ailleurs, hein, dès dimanche, hein, vous pourrez écouter Africa Radio à Abidjan, hein, sur le 91.1 FM. Hein, vous le savez, Africa numéro 1 change de nom et arrive sur le continent africain avec notamment Abidjan. Je vais y arriver. Merci à tous de votre participation. On te donne donc rendez-vous lundi sur Africa Radio pour une nouvelle édition du journal des auditeurs. Nous parlerons du rôle des réseaux sociaux et de cette coupure au Tchad. Inscrivez-vous en laissant un message sur le répondeur au 33 1 55 07 58 05. Restez à l'écoute d'Africa. À lundi.